Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission du Guide de l'auto. Et oui, cette semaine, c'est moi qui suis derrière le micro principal en remplacement d'Antoine Joubert qui est parti à Goodwood pour un événement de course automobile où on présentera des véhicules de course chez Porsche. Donc, il pourra nous en reparler la semaine prochaine. Et je partage l'antenne cette semaine avec Louis-Philippe Dubé qui est évidemment collaborateur au Guide de l'auto. Bonjour Louis-Philippe.
Bonjour Germain.
Et en fait, je le mentionnais, tu es collaborateur au Guide de l'auto. Qu'est-ce que tu fais précisément avec nous?
Bien, évidemment, je travaille avec vous pour la création du livre depuis plusieurs années. Et puis également, je contribue sur le site avec des essais réguliers ainsi que des actualités.
Et en plus, et tu t'occupes du volet anglophone là, du Guide de l'auto en plus.
Oui, évidemment. Une grosse partie de mon travail consiste à fournir du contenu, à créer du contenu spécifiquement pour le côté anglophone, The Car Guide, qui est le côté anglophone du Guide de l'auto.
Ben, aujourd'hui, l'émission de radio, ce sera en français, je te rassure, Louis-Philippe.
Ça fait, je suis bien à l'aise.
On commence avec quelques actualités. Donc, on a appris cette semaine que le circuit électrique d'Hydro-Québec, donc tout le circuit de bornes qu'on retrouve à l'échelle de la province, qui est propulsé par Hydro-Québec, ben on ajoutera d'ici 2026... pas moins de 7500 nouvelles bornes de recharge de niveau 2. Donc ça, ce sont principalement des bornes qu'on retrouve en milieu urbain, donc des bornes entre guillemets lentes. Ce sont pas celles qu'on va retrouver, par exemple, en bordure d'autoroute à 50 ou 100 kilowatts. Là, on n'est pas là du tout. Donc, j'espère qu'on pourra peut-être un peu mieux desservir les milieux urbains avec cet ajout de bornes-là, parce que on sait quand on habite en ville, en appartement, dans un deuxième, troisième étage, par exemple, et qu'on n'a pas un stationnement souterrain, par exemple, avec des bornes, eh bien la recharge de véhicules électriques peut devenir un enjeu. Alors, cet ajout-là viendra pallier assurément à ça. Ce sera des bornes fabriquée par l'entreprise Flo, entreprise québécoise qui a déjà fourni, c'est-à-dire 4500 bornes à Hydro-Québec par le passé. Donc, on est très bien établi et ces bornes-là sont réputées pour leur durabilité, leur robustesse, sachant que l'hiver québécois est souvent un enjeu. Eh bien, là, on est rassuré avec cet ajout de bornes de recharge au réseau du circuit électrique d'Hydro-Québec. Parlant de bornes de recharge, Louis-Philippe, ces dernières semaines, tu as mené rondement un dossier concernant des pirates informatiques, en fait, qui s'emparent de bornes de recharge.
Oui, évidemment, quand on parle de système informatique, on parle toujours d'une espèce d'engouement là, pour les pirates informatiques, parce que ces systèmes informatiques-là sont de plus en plus connectés. Évidemment, votre voiture a beaucoup d'informations. Votre voiture neuve a beaucoup d'informations sur vous en ce moment, mais également les bornes de recharge avec les comptes, les applications contiennent également des informations, retiennent des informations sur vos allées et venues, mais également vos informations de paiement, etc.
Ça vous donne, oui, puis c'est quand même un enjeu important quand on détient les informations bancaires d'un consommateur, là.
C'est important. Puis, un lecteur me disait, c'est pas différent, par exemple, d'un terminal de paiement pour une pompe à essence dans un SO. Je suis pas d'accord parce que une borne de recharge est connectée au réseau local électrique par exemple d'Hydro-Québec ou du circuit électrique, etc., ce qui met en jeu l'intégrité du réseau local. Donc ça devient comme un problème de sécurité qui peut, par exemple, je vous donne un exemple, un pirate informatique pourrait s'emparer de 2-3 bornes de recharge, puis littéralement pirater là, le grid, si on veut, auto-local. Puis ça, ça devient comme à moins 20 en milieu de février. Ça peut devenir un problème pour les résidents qui sont autour.
Donc, parce qu'on comprend que les bornes de recharge sont connectées entre elles, sont reliées entre elles, alors qu'une pompe à essence n'est pas reliée à celle qui est l'autre bord de la rue, là.
Exactement, c'est ça. Donc, il y a une étude qui a paru tout dernièrement, au début de l'année, dans la revue Computers and Security. Une étude qui a été d'ailleurs dirigée par l'Université Concordia ici à Montréal. Et puis, les ingénieurs et puis les gens qui ont participé à cette étude-là ont étudié une panoplie de bornes qui sont actuellement sur le marché, qui sont achetées, par exemple, par le circuit électrique, mais également par des organisations à travers le monde. Et puis, on piraté, c'est-à-dire qu'on appelle white hat hacking, là, ça veut dire pirater pour trouver, dans le but de trouver des faiblesses dans des logiciels, dans des installations. Et puis, on a évidemment trouvé des failles là, au niveau des logiciels, mais également au niveau des applications, etc. On ne parle pas spécifiquement de bornes ou de marques en tant que telles, mais comme tous les systèmes informatiques, on a trouvé certaines failles. Et puis, on était capable de mettre des recommandations pour être capable de protéger non seulement les utilisateurs, mais les circuits électriques auxquels ces bornes-là sont reliées.
Parce qu'il faut savoir, au Québec, on est habitué avec le fameux circuit électrique d'Hydro-Québec qui est opéré, géré par une société d'État. Donc, on peut intuitivement avoir confiance en ce réseau-là. Mais ailleurs, en Amérique du Nord, on va retrouver beaucoup de réseaux privés. Et là, ben, il y aura peut-être un peu moins de connaissances pour le consommateur, là.
Bien, évidemment, c'est ça qu'un peu mon dossier a révélé. C'était que j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec un représentant du circuit électrique qui m'a parlé un peu de qu'est-ce que Hydro-Québec faisait dans le but de se protéger, de protéger les utilisateurs, de protéger également le réseau. Tous les constructeurs, tous les fabricants, ça commence au niveau de la contractance, c'est comment quelles compagnies sont retenues pour fabriquer ces bornes-là. Toutes les études qui sont effectuées, par exemple, avec l'Université Concordia, mais également des autres études à l'extérieur qui sont faites pour trouver les différentes failles. Et puis, chez Hydro-Québec, on m'a confirmé qu'on était bien à l'affût de ces problèmes-là. Puis non seulement, on veut protéger le réseau, mais protéger les utilisateurs. Donc, on nous a avoué que c'était quelque chose qui était très important. En essayant de m'entretenir avec d'autres réseaux, par exemple, qui opèrent des bornes au restant du Canada, mais aussi aux États-Unis, on n'était pas capable de me donner des réponses nécessairement aux moyens de défense qu'on empruntait. Donc, ça montre un peu les motivations, puis les enjeux dans ce dossier-là.
Excellent, merci, bien intéressant. On a vu cette semaine aussi Polestar qui a dévoilé, qui a présenté, c'est-à-dire une nouvelle voiture qui viendra se joindre à la gamme de la marque entièrement électrique, donc la Polestar 5. Et on nous a déjà dévoilé sa puissance, dont on est à 872 chevaux, ce qui est considérable. Je vous invite à aller voir là, les photos sur le site du Guide de l'Auto. Ça me semble une très belle voiture. On l'a définie comme étant un coupé électrique à quatre portes de haute performance, je l'ai mentionné, 872 chevaux, donc de haute performance, ça va de soi. Et quand on la regarde, quand on regarde les données techniques qu'on nous a fournies, eh bien, on n'a pas le choix de faire un parallèle, si on veut, et je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Louis-Philippe, avec la Audi e-tron, RS e-tron, ou encore la Porsche Taycan. Donc, on veut carrément aller dans ce créneau de voitures sportives, mais 100% électriques.
Donc ce sera... Et très dispendieuse,
oui, évidemment. Mais je pense que chez Polestar, on a bien défini notre marché. Là, on ne veut pas vendre des autos beaux, bons, pas chers. Là, on vise du haut de gamme. D'ailleurs, avec le VUS qu'on attend toujours chez Polestar, qui devrait arriver bientôt, on va viser là, une clientèle de Porsche Cayenne, par exemple, mais en ayant un véhicule qui sera 100% électrique, évidemment.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la Pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Louis-Philippe, la semaine dernière, tu étais en Arkansas pour conduire un véhicule qui s'est fait assez discret, qui n'a pas fait couler beaucoup d'encre, je trouve. C'est la version électrifiée de la Genesis G80.
Oui, Genesis a décidé de faire une version électrique. On l'a appris, là, il y a quand même, je pense que c'était l'an dernier, là, que Genesis allait nous amener une version électrifiée de sa berline intermédiaire G80. En fait, électrifié, là, c'est un mot qui s'apprête un petit peu à toutes les sauces de ces temps-ci dans l'industrie automobile, mais selon Genesis, là, on parle d'une voiture 100% électrique. On a pris le châssis ou la plateforme de la G80 à moteur thermique, et puis on lui a greffé là, un moteur électrique à l'avant, à l'arrière et une batterie dans le plancher. Donc, ça donne une berline intermédiaire très luxueuse, qui paraît très bien, bon, de mon ami à moi, mais également qui offre une bonne autonomie. On parle de 454 km d'autonomie pour cette berline-là, qui pèse un petit peu plus de 5000 livres. Donc, un véhicule qui n'est pas nécessairement extrêmement pesant quand on parle de certains véhicules électriques sur le marché, mais c'est
définitivement... C'est pas un poids plume non plus.
C'est définitivement pas une des plus légères. Donc, on parle d'une puissance combinée de ces moteurs, de ces deux moteurs-là électriques, de 365 chevaux avec 516 livres-pieds de couple. Évidemment, les deux moteurs nous offrent la traction intégrale sur ce modèle-là de la G80. Un véhicule qui est somme toute très agréable à conduire. On parle de quand même là, une voiture, je ne veux pas dire que c'est pépère parce que c'est 516 livres-pieds qui sont livrés.
Mais ça demeure une grosse berline, un peu pataude. On n'a aucune prétention sportive avec cette voiture-là. Là.
Évidemment. On regarde qu'est-ce qui se passe un peu sur le marché actuel en ce moment. C'est difficile de classifier une berline comme ça électrique parce que si on regarde les autres véhicules qui ont quatre portes, qui sont électrifiés en ce moment sur le marché, ben on parle Tesla Model S, Audi e-tron GT et puis la Porsche Taycan, donc c'est sûr...
Et la future Polestar 5
parlait il y a quelques instants, ça m'a fait penser à ça. Et ce sont des véhicules qui sont de très haute performance, mm-hmm. beaucoup plus de chevaux là, que la G80 électrifiée.
Et ce sont des véhicules aussi qui ont d'abord été conçus pour être des véhicules électriques, alors que dans le cas de la G80, ça me paraît être une adaptation à partir d'un véhicule qui était initialement prévu pour être à essence.
Évidemment, ben oui, puis on espère que cette décision-là, cette stratégie-là, va nous permettre d'avoir un prix qui est alléchant, puis que la G80 électrifiée va peut-être offrir une alternative un peu de remplir cet écart-là entre les véhicules électriques qui sont abordables et puis qui sont admissibles à certaines subventions. Et puis des véhicules...
Mais pour le moment, on ne connaît pas le prix.
Non, pour le moment, on ne connaît pas le prix. De ce qu'on nous a dit, c'est le prix devrait nous être annoncé plus près de la date de production, c'est-à-dire au début de l'automne. Mais tout pour dire que ce véhicule-là, la G80, après avoir conduit, là, par exemple, les autres voitures qu'on a mentionnées un peu plus tôt, c'est un véhicule qui est très confortable, qui offre beaucoup, beaucoup de couple dans ses accélérations à bas régime, mais également qui offre une conduite qui est très silencieuse. Il faut le souligner chez Genesis. Et la G80, on l'a applaudi maintes et maintes reprises au niveau de l'isolation. À l'intérieur du véhicule, qui offre un environnement de conduite qui est propice là, à la détente, on peut dire. Et puis, tous les matériaux et l'assemblage dans ce véhicule-là sont également dans la même ligne d'idée.
C'est aussi beau, c'est aussi bien fini. Les matériaux sont d'aussi grande qualité que la version essence qu'on connaît déjà.
Évidemment. Qu'est-ce qu'on dit, c'est que quand on a regardé ce véhicule-là, c'est difficile de la distinguer de son homologue à moteur thermique parce que justement, de l'extérieur, tout ce qui est différent, c'est la grille de calandre à l'avant qui est
pleine finalement.
Qui est pleine, qui est fermée et puis qui contient le port de recharge là, assez bien dissimulé à l'avant. Et puis à l'arrière, ben on a l'absence des pots d'échappement qui normalement sont intégrés dans le pare-choc inférieur et ils ne le sont évidemment pas dans la version électrifiée. Donc on garde somme toute tout le look assez somptueux là, de la G80 de Genesis.
Tu me parlais d'un moteur à l'avant, d'un autre à l'arrière. Comment on a réussi à dissimuler le tout pour pas empiéter trop dans l'espace du coffre?
Bien, évidemment, à l'avant, si on ouvre le capot, on retrouve un peu le même look que ce qu'on a avec le moteur thermique, c'est-à-dire que le moteur est surélevé, et puis on dirait que si on ouvre les couvertures de plastique sont toutes là, puis on ne voit pas vraiment une différence à part le fait que c'est un moteur électrique. À l'arrière, par contre, on a dû quand même faire un petit peu d'adaptation, puis on a empiété sur le volume de chargement dans le coffre qui était auparavant, là, on chiffrait ça à peu près à 370 litres, si je me rappelle bien, puis on a dû retrancher environ 65 litres de volume de chargement à l'arrière comparativement à son homologue là, à moteur à essence.
Excellent. De mon côté, Louis-Philippe, j'ai pu conduire le Volkswagen Atlas, véhicule que j'avais conduit à son arrivée sur le marché, mais je trouvais pertinent de le remettre à l'essai. Véhicule d'essai qui était doté du moteur V6 de 3,6 litres. Bon, c'est certain qu'avec le prix actuel du litre d'essence, c'est peut-être pas l'idéal d'avoir un V6 atmosphérique, mais en même temps, quand on regarde la gamme de l'Atlas, le moteur d'entrée de gamme, c'est un 4 cylindres turbo-compressé de 2 litres qui, à mon avis, n'a pas sa place dans un véhicule comme l'Atlas. Alors, on est en quelque sorte condamné à aller à opter pour le V6, c'est-à-dire, toujours pour rester dans les sujets d'actualité, le prix de l'essence, oui, mais la pénurie de véhicules neufs. On a reçu il y a quelques semaines un représentant de chez Volkswagen qui nous disait qu'effectivement, l'engouement pour le Volkswagen Atlas était quelque peu estompé. Donc, ça fait partie des autres avantages de ce véhicule-là. On peut l'obtenir assez rapidement. De mon côté, j'ai bien apprécié la position de conduite de ce véhicule-là. La garde au sol n'est pas très élevée, donc on monte à bord assez facilement. Et oui, à l'avant, c'est le grand confort. Cela dit, la qualité des matériaux de l'habitacle, ça laisse un peu à désirer. Et quand on monte la deuxième rangée, on a l'impression que ça empire encore. C'est beaucoup de plastique très rigide.
Qu'est-ce qu'on s'attend du constructeur Volkswagen? Je pense que dans les dernières décennies, on nous offrait un look qui était beaucoup plus premium, beaucoup plus singulier d'ailleurs qui était à Volkswagen. Puis maintenant, dans ces gros utilitaires-là qui sont dans ce gros utilitaire-là qui a été fabriqué pour le marché nord-américain, on se détrompera pas. On a complètement laissé l'espèce de flair, un peu le look qu'on retrouve dans certains autres véhicules Volkswagen. Je trouve ça quand même bien dommage, même si c'est un véhicule familial.
Oui, on ne sent absolument pas l'aura Volkswagen ou le passé de la marque. On ne sent absolument rien à bord de ce véhicule-là. Bon, je disais que la qualité de l'aménagement n'était pas géniale, mais en même temps, c'est bien pensé, c'est bien conçu. Quand on abaisse les bancs, par exemple, on obtient un beau plancher plat. Donc, c'était conçu pour la famille nord-américaine qui veut soit avoir plusieurs occupants ou encore transporter de gros objets. De ce côté-là, c'était bien pensé. Je précise que je conduisais la version régulière de l'Atlas et non pas sa version cross sport, qui est, à mon avis, encore plus inutile. C'est l'anti-VUS qui est pourtant un VUS. Donc, c'est simplement une version moins pratique de l'Atlas.
C'est un Atlas sans la troisième rangée.
Donc, pourquoi acheter ça? Excellente question et on n'a pas la réponse à cette question-là. Si vous voulez un VUS de ce format-là, optez pour l'Atlas et au moins laissez la troisième rangée baisser. Au moins, vous aurez un peu d'espace de chargement. À quoi bon se procurer un Atlas Crossport? Pour moi, ce véhicule-là n'a tout simplement pas de raison d'être.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Louis-Philippe, en deuxième portion d'émission, on va parler de van life. On en avait parlé il y a un an avec un musicien qui vit à l'année dans son petit camion. Mais là, on va s'entretenir avec Olivier Bilodeau, qui est président et créateur de Nomad Van. Et lui, finalement, il conçoit des vans pour les gens qui veulent pratiquer la van life. Olivier, bonjour et bienvenue parmi nous.
Bonjour, je suis bien enchanté d'être avec vous.
Si on revient sur l'historique de l'entreprise, comment tout ça est parti?
Bon, ça a parti d'un, en fait, là, un petit peu comme tout le monde, on travaille à temps plein, on a de 9 à 5, la vie suit son cours, c'est plutôt finalement assez linéaire. Donc, il m'est venu l'idée là, de vouloir prendre une année sabbatique pour faire le tour du Canada avec mon fils dans un van en fait autonome, avec un lit, cuisine, qui demande pas tant de préparation, puis qui demande pas tant d'organisation non plus de location de camping ou autre. Donc, c'est là que ça a commencé. Donc, j'ai pris une année sabbatique et j'ai converti mon premier van campeur pour moi et mon fils afin de faire le tour du Canada. Et finalement, c'était une expérience fantastique de pouvoir partir sur la route avec une liberté vraiment vraiment génial, où est-ce qu'on peut faire une épicerie, où est-ce qu'on n'est pas obligé de réserver des campings, on n'a pas besoin d'être branché non plus pour avoir l'électricité et les services. Donc, on a eu une super belle expérience. Puis, bien sûr, bon, par la suite, étant donné que j'avais converti ce van-là, ben, je l'ai mis à vendre. Donc,
on se remet en quelle année, là, pour nous donner une idée?
Oui, c'était en 2017.
OK. OK. Et donc, là, bon, oui. le périple se passe bien, on revient oui. et on décide de passer à autre chose en vendant la vanne.
Absolument. Donc, simplement la suite des choses, je mets le van à vendre. Et puis, surprise pour moi, 2 jours après la mise en vente sur Kijiji, j'avais 2 000-3 000 visites sur la page, puis j'avais environ 100 de courriels puis 50 d'appels. Donc, je veux pas ce qui... Premier réflexe, bon, je pense que je l'ai vraiment pas vendu assez cher. Mais somme toute, j'étais tout à fait confortable avec mon prix, comme je l'avais converti moi-même. Puis, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé la situation, puis j'ai bien compris qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de gens, tout comme moi, professionnels ou autres, qui désiraient vivre une aventure, partir sur la route, et non pas nécessairement attendre à la retraite là, pour vivre ce rêve-là. Donc, c'est là que j'ai imaginé finalement que je pourrais convertir des vannes pour les autres, comme il y avait une espèce de pénurie et le van life était très trendy, donc beaucoup de demandes, peu d'offres, et ce qu'il y avait sur le marché, c'était beaucoup de la mélamine, des faux finis, des rideaux de fleurs sans autonomie, nécessitant d'être
branché. Un beau prélard au plancher.
Oui, exactement. Donc, avec les chanfreins en métal ou sinon, bref, je vous dirais la gamme VR que tout le monde connaît un peu, qui est un peu finalement, là, de façon générale, là, relativement cheap pour pas trop dire un mot autre. Donc, c'est là que m'est venue l'idée d'un enfant. D'y aller avec des matériaux nobles. J'ai toujours rêvé d'avoir un chalet dans les Laurentides, contemporain, rustique, chaleureux, avec des bons matériaux. Puis je me suis dit, pourquoi qu'on pourrait pas mettre ça dans un van à ce moment-là, avec un évier en inox, avec une robinetterie haut de gamme. Donc, au final, souvent les coûts de cuisine sont calculés au pied ou au mètre. Puis, on sait qu'il n'y a pas énormément de cuisine là-dedans. Donc, ça vaut la peine d'y aller avec la qualité. Et j'ai donc proposé, j'ai décidé d'appeler 10 personnes sur tous ceux qui étaient intéressés à acheter le van. Donc, 10 personnes que j'ai invitées à venir chez moi. Bon, bien sûr, la première personne a acheté le véhicule qui était à vendre. Puis, j'ai proposé aux 9 autres de leur convertir un van campeur sur mesure et en leur expliquant finalement mon bagage, mon passé. Et
parce qu'il faut dire que vous aviez un certain passé justement en design, en architecture, en aménagement. Là, vous n'arriviez pas de nulle part dans cette aventure-là.
Non, absolument. Donc, j'ai eu une entreprise de terrassement, par exemple, donc au niveau de la gestion, au niveau de d'embellir finalement les cours, la cour des gens. Autant j'ai conduit une pelle mécanique finalement que j'ai fait des cours d'architecture et d'ingénierie. Et je me suis aussi spécialisé finalement en économie. Donc, tout ce bagage-là mélangé ensemble, j'avais de quoi faire pour partir cette entreprise-là.
Et là, bref, vous recevez les 10 acheteurs potentiels que vous aviez identifiés, vous les recevez à la maison et finalement, eux réitèrent leur intérêt pour se procurer la vanne initiale, mais le problème, c'est qu'il n'y en a qu'une seule.
Oui, exactement. Donc, nécessairement, je leur ai dit que j'allais respecter l'ordre de priorité. C'est important pour moi. Donc, la première personne qui m'avait envoyé un courriel ou un message allait nécessairement pouvoir avoir le choix de l'acheter ou pas. Par contre, je leur ai dit que j'avais un bon plan pour réussir à finalement combler leurs besoins. Parce qu'en fait, au final, ils étaient intéressés à ma vanne, mais c'était peut-être pas parfait pour eux autres non plus. Il y avait d'autres idées. Peut-être que le plafond était pas assez haut, etc. Donc, je leur ai proposé de faire un van campeur pour tous et chacun, finalement, sur mesure, avec finalement en écoutant leurs besoins, puis en créant et en concevant des vannes particuliers pour chacune des personnes. Donc, je leur ai demandé finalement un tiers de dépôt pour financer finalement leur projet. Je leur ai dit que finalement, avec cet argent-là, je vais pouvoir louer un local, engager des ébénistes, acheter de l'outillage, organiser le tout. Donc, agréablement surpris de ils m'ont tous fait confiance et on est allé de l'avant les neuf avec ce projet-là. Donc j'ai financé on a autofinancé l'entreprise de Madvan la première année avec simplement ces clients-là là, de départ.
Olivier, c'est quoi la différence entre le camping et la van life? On comprend que van life, ça peut être un mode de vie, mais selon toi, dans tes mots à toi, comment tu pourrais nous expliquer cette différence-là?
Ben, moi, je pense que le van life, en fait, c'est sûr que c'est assez large. Chaque personne le vit d'une façon différente, mais somme toute, au niveau du concept, le camping, c'est une tente, c'est finalement il faut un terrain, il faut faire des réservations, tandis que le van life, ça peut être ta seule voiture qui, à tout moment, finalement, a sa cuisine, son lit, ses rangements et est équipé. Donc n'importe quand, on peut décider de partir à l'aventure, puis on n'a pas de préparation à faire, ni d'organisation, ni nécessairement de réservation sur camping. Donc, on peut partir à tout moment et on a notre condo de luxe, ou notre condo du moins, confortable qui nous suit partout. Donc, c'est un véhicule, une maison et on peut partir en toute liberté sans contrainte. Ça ressemble, c'est un petit peu comment je décrirais le véhicule en tant que tel.
Dans les deux dernières années et plus, il a été particulièrement difficile de voyager à l'étranger, en tout cas par avion. On sait que les voyages en auto au Canada ont été très populaires. Est-ce qu'il y a eu un engouement de votre côté qui s'est manifesté encore plus grand depuis le début de la pandémie?
Ah, certainement, on a pu vraiment nécessairement le constater. Habituellement, c'est tous ceux qui ont rêvé d'avoir un Westphalia, de partir à l'aventure, qui rêvent depuis toujours finalement d'avoir un véhicule comme ça à la retraite. Ça, c'est ce qui composait ma clientèle il y a 5-6 ans quand j'ai commencé l'entreprise. Dans le fond, c'est des gens qui avaient ça déjà en tête. Donc, quand le COVID est arrivé, on a vu aussi que la CEPAC laissait juste place à ceux qui étaient autonomes, justement, ceux qui avaient une douche, un chauffage, un chauffe-eau. Eux autres pouvaient se permettre de voyager. Et les véhicules nomades et autonomes, dans le fond, avaient beaucoup moins de contraintes. On pouvait se promener, on pouvait, si les restaurants étaient fermés, on peut faire l'épicerie, on peut manger. Si on doit être confiné, on peut rester dans le véhicule. Donc, ça a été vraiment... Bref, un outil fantastique pour le COVID. Puis là, on est venu finalement tous ceux, j'imagine, qui avaient l'habitude de voyager en avion, qui avaient un rythme de vie différent que du van life. Puis pour tous ceux-là, c'est devenu une option vraiment intéressante. Qu'est-ce que ça a fait environ au niveau du téléphone? C'est que ça a fait environ x5 le nombre de demandes là, de conversion. Toujours est-il, depuis le début de l'entreprise 2017, je double environ chaque année de volume, là, autant de la complexité des vannes que les quantités de véhicules construits. Puis bien sûr, j'ai pas pu répondre à cette demande-là parce que x5, mais c'est dur de garder le contrôle sur une entreprise qui se multiplie aussi rapidement. Donc, on est resté avec notre rythme, puis finalement, il y a beaucoup de gens qu'on n'a pas pu aider là, durant cette pandémie.
En ce qui a trait à la réglementation de ce type de véhicule-là, parce que, bon, essentiellement, vous prenez des ProMaster, des Sprinter, des Transit, et vous les transformez, aménagez, modifiez. Quels sont les enjeux avec Transport Canada et la SAAQ?
Bon, bien sûr, il faut tout le matériel qu'on utilise doit être certifié CSA pour commencer. Il y a plusieurs règles à respecter avec Transport Canada. Mais au niveau de la SAQ, finalement, c'est quand il est question de modification de véhicule, on parle de modification du moteur, modification de la suspension, ajout de bancs passagers. Donc c'est pour ces travaux-là finalement qu'on ça nécessite une certification afin d'avoir un véhicule qui est légitime. Parce que sinon, somme toute, des marchepieds, un règle de toit, l'air climatisé, l'aménagement intérieur, mettre une fenêtre, c'est pas considéré comme une modification qui nécessite finalement une validation, une certification là, auprès de Transport Canada. Tant et si longtemps qu'on utilise des matériaux certifiés et autorisés.
Vous avez mentionné là quelques accessoires et commodités. Là, quels sont les éléments les plus populaires que les gens tiennent absolument à avoir dans leur van?
Donc, dans leur van, c'est sûr, nonobstant le simple fait qu'on doit avoir un lit, une cuisine et une place où manger ou relaxer, de plus en plus, beaucoup de demandes pour le chauffage, dans le fond. Ce qui était très peu, qui était beaucoup moins commun là, il y a 5-6 ans au niveau du van life. Donc, c'est le chauffage au bastou qui fonctionne avec l'essence ou le diesel, puis bien sûr avec une très bonne isolation pour garder sa chaleur ou sa fraîcheur l'été. Donc, le chauffage est une priorité. De plus en plus, la douche intérieure se positionne, dans le fond, là, dans des demandes d'environ 75% des fois. Puis sinon, ben, pour l'extérieur, ben, on parle du marchepied. Souvent, ces véhicules-là sont un peu plus hauts. Donc, le marchepied et quelques équipements comme le règle de toit, l'eau au vent. Et c'est les principales là, équipements extérieurs qui nécessite là, finalement d'avoir l'eau vent, parce que l'eau vent permet de doubler la superficie habitable en moins d'une minute là, avec la protection contre la pluie là, vers la terrasse extérieure.
Olivier, dans l'industrie automobile actuellement, il y a beaucoup de défis au chapitre de l'approvisionnement des véhicules. Ces défis-là, bon, c'est expliqué par la chaîne d'approvisionnement, mais aussi toutes sortes de facteurs. Est-ce que, du côté de ton entreprise, on ressent un peu les effets pour se faire fournir, par exemple, des véhicules ou des composants spécifiques à la transformation?
Ah oui, absolument. Absolument. C'est majeur au niveau de l'équipement pour VR. On parle de, bon, à peu près grossièrement, une augmentation de 20 à 30 % là, sur les différentes composantes, premièrement. Et ensuite, la rareté puis la contingence. Donc, c'est pas rare qu'on commande quelques auvents et qui arrivent 6 mois plus tard ou des règles de toit et puis qu'on est prêt avec plusieurs mois d'attente alors qu'avant, c'était 3-4 semaines de lead time. Donc, il y a eu beaucoup de gestion là, finalement, il a fallu faire face à la situation. Puis, dès le début du COVID, on sentait déjà que ça allait commencer à être compliqué. Donc, j'ai approvisionné, moi, mon inventaire de façon générale avec les plus grands vendeurs de pièces. J'ai acheminé environ un an et demi d'inventaire pour me permettre de continuer ma roue sans trop de contraintes. Parce que, je veux pas, mes cédules sont pleines. On est rendu environ 28 employés. On a environ 18 mois d'attente. Donc, toute pièce, finalement, peut m'empêcher de livrer un véhicule. Donc, j'étais allé chercher, finalement, simplement un inventaire vraiment majeur pour réussir à combler ces retards-là. Puis, exemple, Meridirus, qui est le bois que j'utilise pour les aménagements intérieurs. Donc, au début de la guerre en Ukraine, bien sûr, on sentait l'eau chaude aussi par rapport à ça. Donc, la première semaine où ça a commencé, j'ai demandé à mes acheteurs de faire le tour des cours à bois puis de réserver tout le Meridirus qu'on pouvait trouver afin d'encore une fois sécuriser environ là, un an et demi de production. Donc, c'est comme ça que j'ai pu sécuriser mes prix et sécuriser aussi mon débit de production. Donc, de ce côté-là, ça s'est réglé de cette façon-là. Puis, sinon, au niveau des véhicules, je vous dirais que l'incident, c'est pas majeur pour moi parce qu'on est rendu toujours, on se tient toujours dans les délais d'environ là, 12 à 18 mois. Les délais actuellement pour les véhicules, c'est environ ça. Donc, finalement, quand le véhicule arrive, mettons qu'on fait une rencontre client, je m'assieds avec les clients pendant environ 2-3 heures, on discute de long en large de tous leurs intérêts et leurs loisirs et leurs besoins. Et puis, on élabore le van. Donc, ensuite, on définit dans quel véhicule on va faire la conversion. on fait la commande, puis on va attendre environ 12 mois pour le véhicule. Donc, ça nous donne en masse le temps de faire le processus là, de vie, de parler de tous les accessoires, les choix de couleurs, les choix de matériaux, de faire les achats pour approvisionner ce projet-là qui va arriver dans environ 12 mois. Donc, en général, le véhicule arrive. Et nous, on est prêts, on a tout le matériel, puis on peut commencer à travailler dessus.
OK, je comprends. Puis ensuite, si nous autres, dans l'industrie automobile, certains véhicules, parfois, les constructeurs vont choisir de livrer pareil sans certaines composantes qui manquent, puis bon, ils vont créditer pour une installation future. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver?
Exemple, chez Chevrolet, ben, on va avoir le bouton pour activer des sièges chauffants, par exemple, et le véhicule n'en sera pas équipé à sa livraison. Le bouton va être là, mais tout le système devra être installé ultérieurement en concession. Là.
OK, ben on a eu, je pense qu'on n'a pas eu tant de mauvaises expériences dans le sens où, bon, c'est avec Mercedes plus souvent qu'autrement, supposons que le client a commandé un écran 7 pouces, quelques fonctions là au niveau de la cabine avant et du dash, plus souvent qu'autrement, il arrive, puis il n'est pas équipé de cette option-là. Donc, et les rails de toit qui sont super importantes pour installer mes auvents et mes règles de toit sont souvent dépourvus de ces rails-là. Donc, c'est les deux principales là, oublis, ou bon, finalement, là, c'est peut-être voulu, mais c'est les deux équipements qui sont souvent laissés pour compte ou ce que le client a commandé, et ce n'est pas là la livraison. Donc, bon, ça, c'est de ce côté-là, on réussit à s'organiser dans le sens qu'il va chercher son crédit, et nous, on est capable d'installer des rails de notre côté, et on fait venir notre spécialiste en électronique pour changer, pour installer l'écran de 7 pouces qui est à remplacer, mais bien sûr, c'est pas un écran Mercedes. Donc, c'est ça que les clients aiment. Sont un petit peu échaudés par rapport à ça, mais c'est quand même la réalité là, actuelle. Il manque des composantes sur certains véhicules, mais ça ne les empêche pas de livrer le véhicule, même si c'est à 98%.
Vous mentionniez, dans la rencontre préliminaire avec le client, vous faisiez le choix du véhicule. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait être porté pour un projet particulier vers un Sprinter plutôt qu'un ProMaster ou un Transit?
Bon, il y a plusieurs choses dans le fond. Il y a les dimensions exactes. Suite à la discussion des besoins, on va élaborer un plan d'aménagement grossier pour avoir à peu près les grandes lignes, les dimensions. Puis après ça, il y a un monde de caractéristiques dans le fond qui font en sorte qu'on choisit un ou un autre. Bon, il y a ceux qui aiment les Mercedes et les turbos diesel, c'est automatiquement les Sprinter, parce que dans le fond, je recommande fortement le moteur à gaz de ProMaster, le moteur à gaz aussi de Transit, mais le moteur de diesel de Mercedes. Ensuite, si le client fait 6 pieds 2, 6 pieds 3 et plus, donc là, à ce moment-là, c'est quasiment sa seule option, c'est le Transit. Donc, le Transit, lui, hauteur libre avec la finition, on est capable d'aller chercher un 6 pieds 4 environ. Donc, c'est lui qui est le plus haut de la gamme. Au même titre que il y a des gens qui veulent l'aménagement un peu plus large. Donc, ça, nécessairement, c'est le ProMaster qui va, à ce moment-là, qu'on va favoriser. Le Sprint est au même titre que si le client, dans ses besoins, nécessitait un 4x4. Ben jusqu'à tout récemment, c'était que le Sprinter qui l'offrait. Ou sinon, on peut aller vers le All-Wheel Drive de Transit. Donc, la plupart des gens, dernièrement, ils voulaient absolument le vrai 4x4. On a vraiment, vraiment été plus vers le Sprinter. Mais tout est relatif. C'est vraiment relatif aussi au budget. On parle d'un très bon écart de prix, là, peut-être environ, de 15 à 30 000 entre le ProMaster et le Transit, et entre le Transit et le Mercedes. Donc, c'est une question aussi de budget, d'espace et au niveau du moteur et de la durabilité. Si on veut faire énormément de kilométrage à long terme, ben le diesel est favorisé, au même titre que les deux autres sont très bien. Si on veut éviter les problématiques ou on veut se simplifier la vie, peu importe ce qui arrive avec un ProMaster ou un Transit aux États-Unis ou au Canada un dimanche, ben probablement que tous les garages ouverts vont être capables de se réparer, ce qui n'est pas le cas avec le Mercedes.
Okay. Au niveau du prix, l'espèce de... Je sais que ça dépend beaucoup des options, du véhicule de base, etc. Mais pour donner une idée à nos auditeurs, à l'achat, ça coûte combien?
Donc, on parle environ là, de... Pour un ProMaster, ça part à peu près à 45 000. Jusqu'à tout récemment, il y avait le rabais de la FQCC là, de 10 000 $ qui n'était pas à dénigrer.
Ce montant-là des... s'ajoute à celui du prix du camion initial. Oui, voilà.
Non, en fait, je parlais du camion. Donc, le ProMaster, oui, okay. C'est ça va partir à peu près à 45-50, oui. jusqu'au Sprinter qui va être à 80-90. Donc, ça, c'est la gamme de prix pour les véhicules neufs. Ensuite, puis là, c'est sûr que c'est très relatif aux équipements de prix chez le concessionnaire. Donc, de mon côté, pour faire un aménagement complet, ce que ça comprend, c'est on parle d'une isolation. Moi, je fais toujours l'isolation 4 saisons. Ma qualité de finition puis d'ameublement est toujours la même. Après ça, c'est une question de configuration puis de design. Mais les équipements qu'on veut, on veut s'assurer que c'est autonome. Généralement, même mon entrée de gamme, on parle de 2-3 jours d'autonomie complète. Donc, de l'eau, finalement, la cuisine, le lit, les fenêtres, les ouvrants, la ventilation, etc. Donc, un van qui est quand même complet. On parle d'à peu près à 75-80 000 pour le coût de départ. Puis, jusqu'à pas de fin, probablement. Là. Donc, j'ai fait aussi des projets de 250 000 plus le véhicule. Où ce que on est allé jusqu'à les suspensions, on est allé jusqu'au winch, on est allé jusqu'au snorkel, où est-ce qu'on peut traverser une rivière sans respirer, là, finalement, que le moteur puisse chercher son air à une hauteur supérieure. Et c'est pas des choses qui sont nécessairement utiles ou qui vont servir peut-être souvent.
Ce sont des besoins spécifiques à une classe d'acheteurs spécifique, là.
Exact. Mais, parce que, exemple, si on se retrouve au Costa Rica dans un périple où on traverse l'Amérique, mais le Costa Rica, durant la saison des pluies, c'est pas rare que finalement les routes sont ensevelies. Et puis, bon, ça, si on est mal pris, bon, on sait qu'avec le snorkel, on peut traverser sans danger.
Avec un mini Winnie, ça sera plus compliqué, là.
Comment?
Avec un mini Winnie, ça sera plus compliqué, là. Un bon vieux classé, là.
Oui, certainement.
Puis, vous me disiez en pré-entrevue que vous faisiez le financement aussi, étant donné que c'est des montants substantiels, là.
Ah, ben, en fait, le financement s'offre au niveau des véhicules de série. Tout ce qui est custom, généralement, les gens vont s'organiser là, par eux-mêmes là, au niveau du financement, que ce soit des marges hypothécaires, des marges domiciliaires, qui est un produit financier très intéressant là, à faible taux d'intérêt comparé au financement VR. Donc, ils vont probablement prendre le véhicule avec le concessionnaire et vont s'organiser de leur côté pour le coût de conversion. Maintenant, pour réussir à offrir le financement puis donner du clé en main. Parce qu'il faut se dire que c'est pas tout le monde qui est, on va le dire comme ça, le game de venir s'asseoir devant moi puis de jaser pour que je définisse et que je dessine leur van au fur et à mesure de la discussion. Avec une idée en tête, finalement, c'est d'avoir un nomade van, c'est d'avoir un véhicule qui est fait pour nous. C'est à force de discussion finalement qui s'élabore et se crée. Donc ça, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Donc j'ai voulu sortir le série pour offrir finalement à une plus grande gamme de personnes un Nomad Van. Donc ça, c'est un véhicule qui est environ 160 vannes de construit depuis 5 ans. Donc c'est l'aboutissement finalement de la réflexion de 160 constructions. Donc, qu'est-ce qui était souvent demandé? Qu'est-ce que les gens ont vraiment aimé?
Pour atteindre une forme de standardisation, là.
Oui, exactement, mais selon notre signature, parce que je pense qu'on peut on peut dire que malgré le fait que ça fait 5 ans, compte tenu du fait qu'on a fait de l'entrée de gamme, du moyen de gamme, du haut de gamme, on est allé chercher des équipements, des ronds de cuisson à 35$ jusqu'au rond Webasto à 4000 qui marche au diesel. On a utilisé tous les types de d'équipements. On sait maintenant qu'est-ce qu'on doit absolument prendre la meilleure sorte, au même titre que aux endroits où on peut sauver des sous puis qu'il n'y a pas de changement ou quoi que ce soit. Et avec tous les aménagements qu'on a fait pour les gens différents, 160, je pense qu'on peut... Je pense que j'ai fait plus de modèles que des compagnies qui font des séries depuis 25 ans, par exemple, où est-ce qu'ils sortent 4-5 modèles qui sont bons pour 4-5 ans. Donc, cette expérience-là a fait en sorte que on est dans les détails, mais l'optimisation de l'espace et pour utiliser chaque pouce, pour donner plusieurs fonctions à chaque espace idéalement dans l'optimisation. Donc, je crois que le Nomad Series, lui, il est arrivé à ce moment-là finalement. On parle aussi de gestion gestion de la toilette, qu'est-ce que les clients aimaient, plus facile, à quel endroit. Donc, on est allé vraiment chercher dans tous les détails, sorti de Nomad Series, parce que au niveau du financement, si on veut réussir à faire du financement VR, il faut que ce soit un véhicule qui est, enregistré et qui est fixe, qui est standardisé, comme vous disiez là tout à l'heure.
OK. On sait que cette année, Ford arrive avec une version 100% électrique de son Transit. Est-ce que c'est une avenue que vous avez l'intention d'explorer éventuellement, le véhicule électrique en mode van life, ou vous préférez vous concentrer sur des véhicules à essence ou au diesel?
Ben en fait, il faut c'est pour ça que je fais du custom, c'est pour commencer, il faut répondre à notre besoin. Et puis ça, le véhicule électrique de transit là, qui vient de sortir ne répondra pas à ce besoin-là. C'est je pense que on va peut-être attendre 3, 4, 5 ans encore. Peut-être que ça va être rendu là à ce moment-là. J'idéalise pouvoir avoir une autonomie de 1000 km et d'avoir une recharge rapide d'environ 3-4 heures tout au plus pour remplir le battery pack là, d'un véhicule électrique. Donc ça, quand on va être rendu à ces spécifications-là, je pense que là, ça va être viable de faire un campeur avec ça.
Excellent. Merci beaucoup, Olivier. Et on rappelle que vous êtes président et créateur chez Nomad Van. Je vais finir par l'avoir.
Nomad Van.
Merci beaucoup.
Oui, merci.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Louis-Philippe, finissons l'émission en répondant à quelques questions des auditeurs.
Oui, absolument. Première question, on a Marilyn qui envisage changer sa Suzuki SX4 2009. Marilyn désire un véhicule fiable pour le conserver environ une dizaine d'années ou plus. Et puis, la consommation d'essence, évidemment, doit être faible et le prix inférieur à 40 000 $. Marilyn roule environ 75 km par jour et puis dans ses choix, regarde actuellement le Toyota Corolla Cross et puis le Honda HR-V. Demande qu'est-ce qu'on recommanderait. Et elle n'est pas encore, petite précision, pas encore prête pour les véhicules hybrides ou électriques, Germain.
Intéressant parce que, justement, le Toyota Corolla Cross proposera une version hybride, mais bon, on pourra la laisser de côté. J'ai conduit ce véhicule-là à son arrivée l'année dernière. C'était très convaincant comme approche. On retrouve dans ce petit VUS tout ce qu'on doit retrouver dans un petit VUS. C'est comme si on avait pris la liste des caractéristiques, on les avait incorporées l'une après les autres et qu'on avait à peu près tout coché les critères. Cela dit, le Honda HR-V sera complètement renouvelé pour 2023. On a eu quelques détails là en lien avec ce véhicule-là et ça semble assez prometteur. Le HR-V qui avait pas reçu beaucoup d'amour depuis son introduction sur le marché, donc d'avoir une bonne mise à jour, ça ne lui fera pas de tort. Sinon, dans ce segment-là, je me permets toujours de recommander le Subaru Crosstrek qui est à peu près le véhicule idéal pour le Québec. On reste dans le même format, donc un petit VUS. Mais en plus, on profite d'un rouage intégral qui est assez difficile à égaler. Autre question, on a Gaston qui nous demande quel VUS d'occasion de 3 à 4 ans on lui recommande. Il désire un moteur V6 et une capacité de remorquage de 5000 livres et de préférence, il éviterait un VUS américain.
Bien, c'est sûr que quand on regarde cette capacité de remorquage-là, on va toujours penser aux véhicules américains. Il y a énormément de choix. Je pense au Jeep Grand Cherokee, même du côté de General Motors, là, avec les gros utilitaires à trois rangées. C'est sûr qu'à 5000 livres, on s'en sort pas ou presque pas là, avec ce type de gros utilitaires-là. Donc, moteur V6, évidemment, là, si on parle de pas dans l'américain, on peut regarder le Nissan Pathfinder, qui est un véhicule depuis ce petit changement en 2017, qui est somme toute fiable. On parlait avant des problèmes avec la transmission à variation continue.
C'est une bonne chose là, qu'on a éliminé cette transmission-là pour opter pour une transmission automatique traditionnelle. Là.
Évidemment, tout dernièrement, là, c'est ça qui est arrivé. On a capacité de remorquage est quand même assez impressionnante avec 6000 livres. On peut enchaîner également avec l'utilitaire qu'on parlait tantôt, le Atlas, qui est un véhicule qui est quand même capable là, avec 5000 livres, avec le plus gros moteur, donc qui est quand même assez recommandable pour exécuter, tout dépendant qu'est-ce que vous décidez de tracter. Les deux suivants pourraient être peut-être un petit peu plus jeunes là, que 3-4 ans. Là, on parle de Kia Telluride et Hyundai Palisade qui sont également tous les deux très capables là, de remorquer. Il faut faire attention également avec certains véhicules pour la charge là, au timon, c'est-à-dire la charge sur la boule en arrière. Certains véhicules ont des spécifications qu'il faut faire attention si vous remorquez un véhicule récréatif, un bateau, tout ça, c'est moins pire, mais quand même vérifier avec le constructeur là, spécifications techniques de certains véhicules selon qu'est-ce que vous avez besoin de remorquer. Pour la prochaine question, Lynn nous demande également, elles ont signé un contrat chez le concessionnaire qui leur donne 5 000 $ pour leur véhicule en ce moment. Véhicule, il s'agit d'une Honda Civic 2012. Est-ce que le concessionnaire a le droit de leur donner moins de 5 000 $?
Excellente question, en fait. Premièrement, je lui aurais peut-être recommandé de vendre par elle-même sa voiture. Elle aurait probablement eu un plus grand montant pour son véhicule. C'est sûr que si en échange vous avez commandé un véhicule neuf chez ce même concessionnaire-là, on va pouvoir peut-être jouer un petit peu plus à l'élastique, si tu me suis, Louis-Philippe.
Ouais,
et cela dit, si on commande en juin 2022 un véhicule qu'on recevra, par exemple, au printemps 2023, eh bien, c'est certain que le concessionnaire peut difficilement établir la valeur qu'aura votre véhicule dans 6 mois, 1 an, voire même 2 ans si vous avez commandé un véhicule électrique convoité. Alors, normalement, le concessionnaire devrait avoir mis une clause comme quoi la valeur peut fluctuer. C'est certain que la demande pour une berline économique comme la Honda Civic ne devrait pas changer. Cela dit, si vous remettez les clés dans 1 an, eh bien, le véhicule aura 1 an supplémentaire d'usure et aura du kilométrage qui se sera accumulé. Alors, relisez bien comme il faut le contrat. Peut-être demander des éclaircissements à votre concessionnaire. Et c'est certain que si on vous livre votre véhicule dans, je sais pas moi, 8 ou 12 semaines, il ne devrait pas y avoir de jeu dans la valeur de votre véhicule, mais dans un délai beaucoup plus long. Effectivement, ça pourrait arriver que la valeur d'échange de votre véhicule soit différente. Louis-Philippe, merci d'avoir partagé le micro avec moi. Tu as su bien relever le défi et je te souhaite une excellente fin de semaine.
Merci, Germain.
Cube Radio.